RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie. L'arbre suivante, magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous allons également présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutez maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Une délégation de MUF visite l'Indonésie pour apprendre le processus de réconciliation à Aceh. L'accord avec les pays hôtes de l'Institut ASEAN pour la paix et la réconciliation devient la preuve de la consistance indonésienne pour la paix et la réconciliation. La transparence du gouvernement indonésien par la technologie numérique. La discrimination de CPO indonésien, la ministre indonésienne des Affaires étrangères a envoyé une lettre au ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et des pays membres. L'Agence nationale de planification du développement, BAPENAS, a averti que le protectionnisme commercial déclenche un risque potentiel. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a reçu la visite de la délégation du Front de Libération Islamique Moro, ou MILF, dirigée par Al-Hajj Murad Ibrahim. La visite de la délégation du groupe ex-séparatiste dans le sud des Philippines, en Indonésie, vise à étudier le succès du processus de paix ou de réconciliation à Aceh. Ceci a été déclaré par le porte-parole du ministre des Affaires étrangères, M. Armanata Nasir, lors de sa conférence de presse jeudi 1er février 2018 à Jakarta.
Dalam pertemuan kunjungan MILF ke sini, delegasi MILF ke sini adalah
la visite des délégués de MILF vise à étudier le processus de paix qui a été mené avec succès à Aceh. Dans cette réunion, le ministre des Affaires étrangères a exprimé son soutien aux efforts déployés dans le sud des Philippines pour parvenir à la paix. Le ministre des Affaires étrangères a également appelé à encourager toutes les parties, y compris le MILF, à contribuer à la consolidation de la paix et maintenir la paix. En Indonésie, le MILF rencontrera également des représentants d'organisations islamiques telles que Nahdlatul Ulama et Muhammadiyah. Selon le plan, la délégation du MILF rencontrera également le vice-président. Selon M. Armanata Nasir, la visite de la délégation du Front de Libération Islamique Moro en Indonésie montre l'importance du rôle de l'Indonésie en Asie du Sud-Est dans la réalisation de paix, y compris dans le sud des Philippines. En plus de rejoindre l'équipe de surveillance internationale dans le sud des Philippines, l'Indonésie a envoyé jusqu'à maintenant 84 personnels Garuda et des civils pour participer au processus de paix dans la région. Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, a assisté à la signature de l'accord avec le pays hôte de l'Institut ASEAN pour la paix et la réconciliation, mené par le directeur général de la coopération de l'ASEAN, du ministère des Affaires étrangères, M. José Tavares, et le directeur exécutif de AIPR, Rezlan Izar Jeni, jeudi. La ministre Retno Marsudi a dit que la signature était une forme de consistance de l'Indonésie pour encourager la paix et la réconciliation à la fois dans la région et au niveau international. Selon la ministre, la signature de l'accord avec les pays hôtes a marqué le début des opérations de l'Institut ASEAN pour la paix et la réconciliation dans la réalisation d'études et de recherches pour encourager la paix et la résolution des conflits. Pendant 3 ans depuis 2017, l'Indonésie a accueilli AIPR en couvrant les coûts opérationnels de cette agence. Et ensuite, les opérations de AIPR seront conjointement soutenues par tous les pays membres de l'ASEAN.
Indonesia konsisten dengan misi diplomasi perdamaian Indonesia, maka Indonesia menjadi tuan rumah.
L'Indonésie est conforme à la mission de la diplomatie de paix. Par conséquent, l'Indonésie accueille AIPR. Nous finissons déjà que pour l'opérationnalisation à partir d'octobre 2017, le coût sera pris en charge par l'Indonésie. Le bureau est fourni par l'Indonésie, mais l'opérationnalisation sera prise en charge conjointement par les États membres de l'ASEAN. Donc, encore une fois, c'est la consistance de la diplomatie de paix afin de renforcer le pilier de la sécurité de l'ASEAN dans la réalisation de la communauté de l'ASEAN. Selon la ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, l'accord avec les pays hôtes de l'Institut ASEAN pour la paix et la réconciliation comprend les privilèges et immunités pour AIPR pour fonctionner en Indonésie. Concernant la tâche et les fonctions de AIPR, effectuera des recherches dans le domaine de la paix et la résolution des conflits. En outre, AIPR mènera également des activités de renforcement des capacités et soutiendra l'organe sectoriel de l'ASEAN. Le ministre Retno Marsudi a affirmé que AIPR sera le connecteur de l'aspect scientifique dans l'établissement des réseaux avec diverses institutions dans le domaine de la paix et la résolution des conflits. L'Indonésie et l'Australie intensifieront leur coopération dans le secteur numérique à travers plusieurs initiatives qui ont été discutées lors du Forum numérique Indo-Australien 2018 à l'hôtel Fairmont, Jakarta. Ce forum est une initiative du président Joko Widodo et Premier ministre australien Malcolm Turnbull. Lors de la conférence de presse tenue jeudi 1er février à l'hôtel Fairmont, Jakarta, le ministre indonésien des Communications et de l'Information, M. Rudiantara, a déclaré que l'Indonésie avait commencé à préparer toutes sortes de documents sous la forme numérique qui sont bien protégés. Le gouvernement a initié de faire en ligne tous les documents de permis ou licences. Commencé cette année, le président a ordonné que chaque document ou permis appliqué par les entreprises doive passer par un processus de service d'un guichet unique qui est en ligne. C'est la transparence du gouvernement. La transparence en général doit être protégée avec des données protectrices. Et le gouvernement est en train de préparer la loi pour la protection des données. Nous avons discuté avec le Parlement, mais nous espérons que cela fera bientôt partie du programme national de législation. C'est la transparence indonésienne et comment nous devons protéger la vie privée des Indonésiens. Le ministre Rudiantara a ajouté que pour convertir toutes les données analogiques en numérique, l'Indonésie collaborera avec l'Australie à travers le Forum numérique indo-australien qui s'est tenu du 31 janvier au 1er février 2018. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La discrimination de CPO indonésien, Le ministre indonésien des Affaires étrangères a envoyé une lettre au ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et des pays membres. L'huile de palme brute, qui est l'un des principaux produits d'exportation de l'Indonésie, fait face à divers traitements discriminatoires. Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, mentionne la discrimination sous la forme de tarifs et non tarifaires. Lors d'une réunion du ministère du Commerce à Jakarta jeudi, le ministre a expliqué que le Parlement européen avait adopté une résolution sur l'abolition du palmier à huile comme biocarburant pour les énergies renouvelables à partir de 2021. Selon elle, cette résolution n'est pas définitive, nécessite toujours une consultation avec le Conseil de l'Europe et la Commission européenne. Cependant, sa parti a répondu à la résolution qui affectera l'exportation de l'huile de palme brute de l'Indonésie vers les pays européens. Retno Marsudi a déclaré qu'elle avait envoyé la lettre au ministre des Affaires étrangères de l'Union et au ministre des Affaires étrangères de tous les pays membres de l'Union européenne.
Pertama, yang saya pertanyakan adalah mengenai masalah data. Kita memiliki data.
Premièrement, ma question est sur les données. Nous avons des données, ils ont des données. Il sera préférable si nous comparions des données, si bien que cela se produise équité. Deuxièmement, je me demande est-ce que cette résolution est sortie. Et c'est la raison pour la durabilité, pour la santé. Est-ce que ce n'est pas parce que pour protéger les produits similaires produits par les pays de l'Union européenne. La ministre Retno a déclaré qu'en plus de l'Europe, les produits de l'huile de palme indonésien connaissent également d'autres défis. La Malaisie a soudainement réduit la taxe d'importation de palme à huile en raison de l'accès de produits nationaux. Selon elle, en termes de concurrence de pays, cette politique est préjudiciable à l'Indonésie. En outre, cette politique est incompatible avec l'esprit des deux pays en tant que fondateur du Conseil d'État des producteurs de l'huile de palme. En Inde et dans l'État fédéral pakistanais, il existe également une politique relative au palmier à huile à observer. Dans cette situation, la ministre Retno Marsudi invite le ministère du Commerce à continuer de lutter pour l'huile de palme durable de l'Indonésie et cherche de nouveaux marchés pour remplacer les marchés traditionnels qui limitent de plus en plus l'huile de palme indonésienne. Le ministre de Planification du Développement Régional et le chef de Bappenas, M. Bambang Brojonegoro, a averti que le protectionnisme commercial déclenché par le président américain Donald Trump pourrait constituer un risque potentiel pour perturber l'économie mondiale. Lors de la réunion de travail du ministère de Commerce à Jakarta, Bambang a déclaré jeudi que le protectionnisme n'était peut-être qu'une promesse politique, mais que les pourparlers pouvaient déclencher le protectionnisme dans d'autres parties du monde. Bambang a dit que des signes de protectionnisme étaient visibles lorsque les Américains ont décidé de se retirer de la coopération commerciale du partenariat transpacifique lors de l'investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Pourtant, dans ces conditions actuelles, il est difficile à rejeter l'Amérique comme l'une des destinations d'exportation parce que cette superpuissance est le pays avec le produit intérieur brut le plus élevé dans le monde. Il souhaite que les exportations puissent développer plus optimal pour soutenir la performance économique via la diversification des produits et des destinations d'exportation. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire ayant pour le titre La désunion au Yémen. Le gouvernement yéménite n'a pas réussi à résoudre le problème des rebelles houthis qui contrôle une partie du territoire au nord du Yémen en nouveau conflit, a surgi avec un groupe qui combattait auparavant les Houthis. Ils s'appellent eux-mêmes le Conseil de transition du Sud ou STC et soutiennent le groupe paramilitaire de la troupe rebelle Sud SRF qui occupe la capitale Aden. Le gouvernement provisoire du Yémen, dirigé par le président yéménite Abdel Rabo Mansour Hadi, basé à Aden après l'occupation de la capitale de Sana'a par les rebelles Houthis. Les combats entre les paramilitaires et les forces gouvernementales ont duré 3 jours et ils ont même réussi à encercler le bâtiment présidentiel à Aden le 30 janvier 2018. Plus tôt dimanche, la STC avait lancé un ultimatum pour organiser un coup d'État si le président Mansour Hadi n'avait pas remanié son cabinet, considéré comme corrompu. Ce qui inclut dans la liste qui a insisté de démissionner est le premier ministre Ahmed Bin Daguerre et les membres de son cabinet. Mais le président Mansour Hadi a persisté et n'a pas changé la composition de son cabinet. En fait, le leader du rebelle Aïdarous al-Zubaydi était auparavant un partenaire du président Abdel Hadi. Zubaydi et Hadi a combattu Houthi dans la région d'Aden et plus tard nommé gouverneur de la ville. La guerre des mots et les accusations réciproques sont inévitables après qu'Hadi considère al-Zubaydi reçoive un soutien financier et les armes des Émirats Arabes Unis. Zubaydi a contré cette accusation en disant que le gouvernement Hadi était corrompu et a essayé d'éliminer le STC. La relation de ces deux alliés était immédiatement opposée. Ainsi, le gouvernement yéménite fait maintenant face à deux fronts, au nord face aux rebelles Houthis et au sud face à la rébellion STC. La situation du Yémen est compréhensible car, au lieu de s'améliorer, mais même de devenir incertain. Dans ces conditions, l'Indonésie, en tant que pays ami du Yémen, devrait encourager les partis et les États concernés à négocier. Tout le monde sait ceux qui sont les victimes du conflit sont certainement des civils. Comme le dit l'adage de l'Indonésie, les éléphants combattent le même éléphant, le gore mort au milieu. Secrétaire, c'était le commentaire pour ce soir.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 2 février 1943, la 6e armée de terre allemande se rendit à Stalingrad. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a envahi la plupart de l'Europe en utilisant des tactiques de guerre éclair qui comprend le déploiement d'avions, des chars et artillerie. Ces troupes vont percer les défenses ennemies le long d'un front étroit. En utilisant une tactique de guerre de foudre, l'Allemagne a conquis la Pologne, le Danemark, la Norvège, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la France, la Yougoslavie et la Grèce. Les forces allemandes ont attaqué l'Union soviétique en juin 1941, jusqu'à plus de 600 milles vers l'entrée de la ville de Moscou. La deuxième attaque d'Allemagne en 1942 a pris des soldats allemands au bord de la rivière Volga et la ville de Stalingrad. Mais l'Union soviétique, ensemble avec le Royaume-Uni et les États-Unis, a déclaré la guerre à l'Allemagne en décembre 1941. L'armée de terre soviétique a lancé une contre-attaque contre les forces allemandes à Stalingrad qui a eu lieu à la mi-novembre 1942. Ils ont encerclé toute l'armée de terre allemande qui a environ 250 000 soldats. Après des combats acharnés pendant des mois, les troupes allemandes qui ne restaient qu'environ 91 000 se sont rendus. les forces soviétiques ont forcé l'Allemagne à se retirer sur les rives du rivière Dnieper en 1943. Le 2 février 1950, l'Université d'Indonésie commence ses activités. Après la déclaration de l'indépendance indonésienne le 17 août 1945, l'Agence de l'enseignement supérieur de la République d'Indonésie, ou BPTRI, a été établie à Jakarta. BPTRI a trois facultés, à savoir la médecine et la pharmacie, la littérature et le droit. Lorsque l'armée coloniale néerlandaise reprit le contrôle de Jakarta à la fin de 1945, BPTRI déménage à Klaten-Surakarta, Yogyakarta, Surabaya et Malang. Le 21 juin 1946, l'administration civile des Pays-Bas et des Indes, ou NICA, ou le gouvernement des Indes néerlandaises, crée une université temporaire à Jakarta. Le 21 mars 1947, le nom de notre université a été changé en Université von Indonésie. Après la reprise de Jakarta, le gouvernement a renvoyé BPTRI à Jakarta et a fusionné avec l'Université von Indonésie et l'a nommé Université Indonésia. Université Indonésia a officiellement commencé ses activités le 2 février 1950 avec son premier recteur, Ir. R.M. Panji Surahman. Depuis le 2 février 1950, a fait l'anniversaire de l'Université d'Indonésie. En 1955, la loi numéro 10 sur la modification du mot université est légalisée et depuis lors, le nom Université Indonésia a été officiellement changé à l'Université de l'Indonésie. Le 2 février 1997, on a pour la première fois commémoré la Journée mondiale des zones humides. La Journée mondiale des zones humides est commémorée le 2 février de chaque année. Cette date commémore le jour de la signature de la Convention sur les zones humides appelée Convention de Ramsar le 2 février 1971 à la ville Ramsar qui se trouve sur les rives de la mer Caspienne en Iran. La Journée mondiale des zones humides est pour la première fois commémorée en 1997. Chaque année, des organismes gouvernementaux, des organisations non gouvernementales et des groupes communautaires de tous les niveaux de la communauté prennent des mesures pour sensibiliser le public à la valeur et aux avantages des zones humides en général. En 1997 jusqu'à 2007, la Convention a signalé que 95 pays ont célébré la Journée mondiale des zones humides sous diverses formes, séminaires, conférences, cross-country, concours d'art pour les enfants, courses de bateaux et l'action de nettoyage. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Serviteurs, bonsoir, voici mon Indonésie ayant pour le titre « Les exportations indonésiennes en 2017 ont augmenté de 9,8%. » Les exportations totales d'Indonésie en 2017 ont atteint 168,7 milliards dollars américains en hausse de 19,8% d'année en année. Ce nombre est au-dessous de la cible de croissance de 5,6%. Le ministre du Commerce, Enggartias Tolukita, lors d'une réunion de travail du ministère du Commerce en 2018 au Palais d'État, a déclaré mercredi que l'augmentation des exportations était soutenue par les exportations non pétrolières de 15,8% d'année en année. enggak tias tolu kita adeklare ke song parti ami ang nevre in strategie visant à accroître les exportations et à réorienter les fonctions des représentants des délégués commerciaux à l'étranger. Ils ne sont pas seulement un agent de gouvernement, mais aussi un agent d'affaires et un agent de marketing. Relatif à l'expansion des marchés non traditionnels, le ministre Engar a indiqué qu'il avait effectué des missions commerciales en Afrique du Sud, au Nigeria, en Égypte, en Russie et au Chili avec des transactions totales de plus de 264,7 millions de dollars américains ou plus de 3,57 millions de roupies. La valeur des exportations non pétrolières vers des marchés non traditionnels tels que l'Afrique, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud ont également connu une croissance positive en 2017. Le ministre Enger Tiasto a également déclaré que la bonne dynamique a continué au début de l'an 2018 lorsqu'il accompagnait le président lors de la visite à 5 pays d'Asie du Sud. En plus d'accélérer le processus de négociation internationale avec ces pays, il a effectué une mission commerciale en Inde avec des transactions potentielles de 2,16 milliards de dollars ou 28,6 trillions de roupies et au Pakistan s'élevait à 115,02 millions de dollars ou 1,52 trillions de roupies. En outre, dans le secteur de l'énergie, il a signé un accord d'exportation de gaz naturel liquéfié ou GNL au Pakistan et au Bangladesh pour une valeur totale de 10 milliards de dollars américains ou une valeur de 13,5 trillions de roupies. Il a confirmé que l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh sont les 10 principaux contributeurs à l'excédent de la balance commerciale de l'Indonésie. Il a également révélé que l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh invitent et s'attendent à ce que divers produits indonésiens entrent immédiatement dans le pays. Sergio Talk, c'était Mon Indonésie de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Le ministre des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, a reçu la visite de la délégation du Front de Libération Islamique Moro, ou MILF, dirigée par Al-Hajj Murad Ibrahim. La visite de la délégation du groupe ex-séparatiste dans le sud des Philippines, en Indonésie, vise à étudier le succès du processus de paix ou de réconciliation à Aceh. Ceci a été déclaré par le porte-parole du ministre des Affaires étrangères, M. Armanata Nasir, lors de sa conférence de presse jeudi 1er février 2018 à Jakarta.
Dalam pertemuan kunjungan MLF ke sini, delegasi MLF ke sini adalah
la visite des délégués de MILF vise à étudier le processus de paix qui a été mené avec succès à Aceh. Dans cette réunion, le ministre des Affaires étrangères a exprimé son soutien aux efforts déployés dans le sud des Philippines pour parvenir à la paix. Le ministre des Affaires étrangères a également appelé à encourager toutes les parties, y compris le MILF, à contribuer à la consolidation de la paix et maintenir la paix. En Indonésie, le MILF rencontrera également des représentants d'organisations islamiques telles que Nahdlatul Ulama et Muhammadiyah. Selon le plan, la délégation du MILF rencontrera également le vice-président. Selon M. Armanata Nasir, la visite de la délégation du Front de Libération Islamique Moro en Indonésie montre l'importance du rôle de l'Indonésie en Asie du Sud-Est dans la réalisation de paix, y compris dans le sud des Philippines. En plus de rejoindre l'équipe de surveillance internationale dans le sud des Philippines, l'Indonésie a envoyé jusqu'à mettons 84 personnels Garuda et des civils pour participer au processus de paix dans la région. Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a assisté à la signature de l'accord avec le pays hôte de l'Institut ASEAN pour la paix et la réconciliation, menée par le directeur général de la coopération de l'ASEAN, du ministère des Affaires étrangères, M. José Tavares, et le directeur exécutif de AIPR, Rezlan Izar Jeni, jeudi. Le ministre Retno Marsudi a dit que la signature était une forme de consistance de l'Indonésie pour encourager la paix et la réconciliation à la fois dans la région et au niveau international. Selon la ministre, la signature de l'accord avec les pays hôtes a marqué le début des opérations de l'Institut ASEAN pour la paix et la réconciliation dans la réalisation d'études et de recherches pour encourager la paix et la résolution des conflits. Pendant 3 ans depuis 2017, l'Indonésie a accueilli AIPR en couvrant les coûts opérationnels de cette agence. Et ensuite, les opérations de AIPR seront conjointement soutenues par tous les pays membres de l'ASEAN.
Indonesia konsisten dengan misi diplomasi perdamaian Indonesia, maka Indonesia menjadi tuan rumah.
L'Indonésie est conforme à la mission de la diplomatie de paix. Par conséquent, l'Indonésie accueille AIPR. Nous finissons déjà que pour l'opérationnalisation à partir d'octobre 2017, le coût sera pris en charge par l'Indonésie. Le bureau est fourni par l'Indonésie, mais l'opérationnalisation sera prise en charge conjointement par les États membres de l'ASEAN. Donc, encore une fois, c'est la consistance de la diplomatie de paix afin de renforcer le pilier de la sécurité de l'ASEAN dans la réalisation de la communauté de l'ASEAN. Selon la ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, l'accord avec les pays hôtes de l'Institut ASEAN pour la paix et la réconciliation comprend les privilèges et immunités pour AIPR pour fonctionner en Indonésie. Concernant la tâche et les fonctions de AIPR, effectuera des recherches dans le domaine de la paix et la résolution des conflits. En outre, AIPR mènera également des activités de renforcement des capacités et soutiendra l'organe sectoriel de l'ASEAN. Le ministre Retno Marsudi a affirmé que AIPR sera le connecteur de l'aspect scientifique dans l'établissement des réseaux avec diverses institutions dans le domaine de la paix et la résolution des conflits. L'Indonésie et l'Australie intensifieront leur coopération dans le secteur numérique à travers plusieurs initiatives qui ont été discutées lors du Forum numérique Indo-Australien 2018 à l'Hôtel Fairmont, Jakarta. Ce forum est une initiative du président Joko Widodo et Premier ministre australien Malcolm Turnbull. Lors de la conférence de presse tenue jeudi 1er février à l'Hôtel Fairmont, Jakarta, le ministre indonésien des Communications et de l'Information, M. Rudiantara, a déclaré que l'Indonésie avait commencé à préparer toutes sortes de documents sous la forme numérique qui sont bien protégés. Le gouvernement a initié de faire en ligne tous les documents de permis ou licences. Commencé cette année, le président a ordonné que chaque document ou permis appliqué par les entreprises doit passer par un processus de service d'un guichet unique qui est en ligne. C'est la transparence du gouvernement. La transparence en général doit être protégée avec des données protectrices. Et le gouvernement est en train de préparer la loi pour la protection des données. Nous avons discuté avec le Parlement, mais nous espérons que cela fera bientôt partie du programme national de législation. C'est la transparence indonésienne et comment nous devons protéger la vie privée des Indonésiens. Le ministre Rudiantara a ajouté que pour convertir toutes les données analogiques en numérique, l'Indonésie collaborera avec l'Australie à travers le Forum numérique indo-australien qui s'est tenu du 31 janvier au 1er février 2018. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La discrimination de CPO indonésien. La ministre indonésienne des Affaires étrangères a envoyé une lettre au ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et des pays membres. L'huile de palme brute, qui est l'un des principaux produits d'exportation de l'Indonésie, fait face à divers traitements discriminatoires. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, mentionne la discrimination sous la forme de tarifs et non tarifaires. Lors d'une réunion du ministère du Commerce à Jakarta jeudi, le ministre a expliqué que le Parlement européen avait adopté une résolution sur l'abolition du palmier à huile comme biocarburant pour les énergies renouvelables à partir de 2021. Selon elle, cette résolution n'est pas définitive, nécessite toujours une consultation avec le Conseil de l'Europe et la Commission européenne. Cependant, sa partie a répondu à la résolution qui affectera l'exportation de l'huile de palme brute de l'Indonésie vers les pays européens. Retno Marsudi a déclaré qu'elle avait envoyé la lettre au ministre des Affaires étrangères de l'Union et au ministre des Affaires étrangères de tous les pays membres de l'Union européenne.
Pertama, yang saya pertanyakan adalah mengenai masalah data. Kita memiliki data.
Premièrement, ma question est sur les données. Nous avons des données, ils ont des données. Il sera préférable si nous comparions des données, si bien que cela se produise équité. Deuxièmement, je me demande est-ce que cette résolution est sortie. Et c'est la raison pour la durabilité, pour la santé. Est-ce que ce n'est pas parce que pour protéger les produits similaires produits par les pays de l'Union européenne. La ministre Retno a déclaré qu'en plus de l'Europe, les produits de l'huile de palme indonésien connaissent également d'autres défis. La Malaisie a soudainement réduit la taxe d'importation de palme à huile en raison de l'accès de produits nationaux. Selon elle, en termes de concurrence de pays, cette politique est préjudiciable à l'Indonésie. En outre, cette politique est incompatible avec l'esprit des deux pays en tant que fondateur du Conseil d'État des producteurs de l'huile de palme. Anandi est dans l'État fédéral pakistanais. Il existe également une politique relative aux palmiers à huile à observer. Dans cette situation, la ministre Retno Marsudi invite le ministère de Commerce à continuer de lutter pour l'huile de palme durable de l'Indonésie et cherche de nouveaux marchés pour remplacer les marchés traditionnels qui limitent de plus en plus l'huile de palme indonésienne. Le ministre de Planification du Développement Régional et le chef de BAPNAS, M. Bambang Brojonegoro, a averti que le protectionnisme commercial déclenché par le président américain Donald Trump pourrait constituer un risque potentiel pour perturber l'économie mondiale. Lors de la réunion de travail du ministère de Commerce à Jakarta, Bambang a déclaré jeudi que le protectionnisme n'était peut-être qu'une promesse politique, mais que les pourparlers pouvaient déclencher le protectionnisme dans d'autres parties du monde. Bambang a dit que des signes de protectionnisme étaient visibles lorsque les Américains ont décidé de se retirer de la coopération commerciale du partenariat transpacifique lors de l'investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Pourtant, dans ces conditions actuelles, il est difficile à rejeter l'Amérique comme l'une des destinations d'exportation, parce que cette superpuissance est le pays avec le produit intérieur brut le plus élevé dans le monde. Il souhaite que les exportations puissent développer plus optimal pour soutenir la performance économique via la diversification des produits et des destinations d'exportation. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Les émissions de la Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter la province de Gorontalo, à Sulawesi, afin de connaître l'artisanat Karawo. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésia, La Voix de l'Indonésie. Karawo vient de la langue Gorontalo qui signifie broder à la main. Karawo est un artisanat qui décore différents types de tissus avec une variété de motifs de broderie transparents, travaillés sur le tissu en utilisant des fils unis ou multicolores. Le processus de fabrication de cette broderie Karawo consiste à trancher et tirer le fil de fibre textile qui a été bordé, et ensuite avec une aiguille et avec une large gamme de fils selon le motif ou la conception de motif désiré à la main. Pour faire un motif de broderie Karawo, il faut trois personnes avec des tâches différentes. La première personne est une personne sert comme une trancheuse ou un fil sur le tissu qui sera fait la broderie Karawo selon le modèle étant fait. La troisième personne sert comme un brodeur de tissu qui a été analysé. Le processus de broderie dure d'une semaine jusqu'à un mois selon le motif et le type de tissu. Il existe deux types de broderie Karawo. La broderie traditionnelle Karawo et la broderie de cravate Karawo. La broderie de cravate Karawo est plus chère que la broderie Karawo ordinaire parce que le fil à broder doit être cousu cravate entre les fibres de filet de sorte que la broderie est plus forte. Le processus de fabrication de la broderie Karawo est fait par les femmes au foyer dans les villages. L'artisanat Karawo est celle typique Gorontalo qui existe depuis longtemps, d'environ les ans 1600. Les gens hors de Gorontalo appellent Karawo avec Karawang. Karawo est né dans un long processus qui est le fruit de la persévérance des artisans. L'art de faire Karawo ou Krawang s'appelle Makarawo. Cet art a été transmis de génération en génération depuis l'époque du royaume de Gorontalo qui était encore triomphant. La beauté du motif, l'unicité de l'exécution et la bonne qualité est très important dans la fabrication de Karawo. Karawo ou Krawang possède une très grande valeur. Il n'est pas surprenant si l'unicité et la qualité sont en demande de beaucoup de gens, à l'intérieur et à l'étranger. La manière unique de faire de beaux motifs et de la bonne qualité est l'attraction de la broderie Karawo. L'un des motifs célébrés est le tissu de SBY, ainsi nommé parce qu'à l'époque de l'ancien président Susilo Bambang Yudhoyono a visité Gorontalo. Il a porté le tissu de broderie. Le prix des broderies Karawo est environ 500 000 rupiah et plus, selon le type de tissu utilisé. La broderie Karawo peut aussi être faite en fan avec le prix de 30 000 rupiah. Et certaines sont également fabriquées avec un capot avec un prix d'environ 75 000 rupiah. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèles avec nous et au revoir.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Sagritok bonsoir, voici donc l'Indonésie en couleur et en pour titre Kampung Adat Pulau Garut, village avec 7 bâtiments. L'Indonésie annonce le manque l'île de Samosir, située au milieu du lac Toba en province du nord de Sumatra. Dans la province de Java West, précisément à la résidence de Garut, il y a aussi un village au milieu du lac ou du lac Changkuang. Ce groupement s'appelle Kampung Adat Pulau. Kampung Adat Pulau est unique. Le nombre de bâtiments dans cette zone est maintenu 7 bâtiments. 6 bâtiments pour la résidence qui illustre les filles, tandis qu'un bâtiment décrit un garçon qui est utilisé comme mouchola. Les 7 bâtiments sont des symboles du nombre d'enfants du fondateur de Kampung Adat Pulau, Mbah Dalem Arif Muhammad, à savoir 6 filles et un homme. Mbah Dalem Arif Muhammad lui-même est le premier épandeur musulman dans cette région. Tous les bâtiments de ce Kampung Adat Pulau ont un toit allongé, mais la maison du chef coutumière se distingue des autres parce que le toit utilise des toitures en fibre. Les fibres noires proviennent des palmiers ou nao ou aranja pinata. En plus du nombre de bâtiments, les habitants de ce village ne devraient pas non plus ajouter le chef de famille, à savoir 6 chefs de famille. Chaque maison est une seule famille habitée. Il y a encore beaucoup de coutumes qui ont été préservées jusqu'à présent, y compris ceux qui ont le droit de recevoir des droits de succession sont les filles. La coutume est née en raison de la mort du fils de Mbah Arif lors de sa circoncision. Jusqu'à présent, les habitants de Kampung Adat Pulau Garut ne gardent pas les animaux à quatre pattes, comme les vaches, les chevaux, les chèvres, etc. C'est parce que la plupart des gens travaillent et gagnent l'argent de l'agriculture et du jardinage. Si redoutés, ces animaux peuvent endommager les champs et les plantations des habitants. Bien qu'il ne soit pas permis de garder ces animaux, les habitants de Kampung Adat Pulau ne sont pas interdits de manger de la viande de ces animaux. Une autre chose unique, les gens ne sont pas autorisés à visiter la tombe du fondateur du village le mercredi et mardi soir. Serviteur, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, serviteurs du service mondial de la voix d'Indonésie, n'importe où que vous soyez, on se rencontre dans la rubrique le magazine musical. Cette édition, on écoutera des chansons de la région de Nusa Tenggara Ouest. Bon, chers amis, pour commencer notre rencontre d'aujourd'hui, écoutons donc une chanson intitulée Pai Mura Rame. Bonne écoute. Secrétaire, la région de Nusa Tenggara de l'Ouest a des chansons traditionnelles qui deviennent les chansons obligatoires de la région. La chanson que vous venez d'écouter, intitulée Paimura Rame, est l'une des chansons de Nusa Tenggara de l'Ouest, ou NTB, qui est la chanson obligatoire de la région. Bien que l'on ne sache pas qui le compositeur, la communauté de NTB a chanté cette chanson depuis longtemps ancien. Cette chanson raconte d'une situation où deux personnes veulent ressentir de la convivialité avec des sentiments plus lâches. Pour cela, ils promettent de se souvenir toujours les uns et les autres. Bon, serviteur, écoutons maintenant une autre chanson de NTB intitulée Bentanjangi. Bonne écoute.
Aku pakai klamenandi dadi duko. Nama aku dadi kater, matulayan mole trea. Onang kele dirasate gamang to sayaku nyone kine bentanyan nyone kine bentanyan sana
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.